patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour chers auditeurs de Radio Présence. Je suis contente de vous retrouver.
Également. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Chantal ?
Alors aujourd'hui je vais vous parler dans le cadre de patrimoine et spiritualité des stèles des stations du calvaire de Lourdes. Elles se trouvent dans la plaine et ces stèles ont été sculptées par une admirable personne qui s'appelle Maria de Faycod, F-A-Y-K-O-D. Et je voudrais vous faire partager mon admiration. Alors, comment sommes-nous revenus à Lourdes ? Nous sommes revenus à Lourdes lors du pèlerinage occitan, les 27 et 28 avril dernier. Et nous avons bien sûr suivi les offices et conférences en langue d'oc, puisque occitan, sous la houlette de Marie-Odile Galès-Lacaze. Et nous avons aussi prié le long du chemin de croix dans la plaine. Bien sûr, chers auditeurs, vous devez le connaître, vous avez parcouru ce même chemin de croix qui se différencie de celui qui est dans la colline. Mais celui-là est particulièrement lumineux. C'est pourquoi je cherchais à vous communiquer toute mon admiration pour cette œuvre monumentale. Et ainsi, on va prendre la première station. De façon générale, je tenais quand même à vous dire que cette œuvre monumentale, comme j'ai déjà dit, pèse 100 tonnes de marbre. C'est du marbre de Carrare, en Italie. Et ce marbre est particulièrement lumineux. La souffrance de Jésus transparaît donc dans cette pierre lumineuse, la souffrance de Marie, Mater Dolorosa, emplie d'espérance et de douceur maternelle. Les visages sont particulièrement bien exprimés. Tous sont empreints de sentiments divinement reproduits dans ce marbre transparent. Vous avez le visage, bien sûr, du Christ, de Simon, de Véronique, qui exprime la compassion et la tendresse, les femmes en pleurs, Marie, n'oublions pas Marie. Les mains, de même que les visages, sont très expressives, comme celle du Christ, ses mains ligotées à la première station. Ses doigts, joints dans un geste de prière, nous montrent toute la souffrance de l'homme, ecce homo, dans la finitude. Quand Jésus est chargé de la croix, à la deuxième station, il ouvre le chemin. Si quelqu'un veut venir à ma suite et qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous trouvons ces paroles dans Luc 9, 23. Quand Jésus tombe pour la première fois, le mouvement du drapé qui l'entoure déjà comme un linceul est magnifiquement sculpté. Son genou est à terre, le poids de la croix l'accable. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Matthieu. C'est dans Matthieu 11, 5, 6. Sa souffrance est estompée par la grâce divine qui agit invisiblement. Le poids de la croix semble allégé. Ses belles mains, son pied sont animés de la grâce divine. Vous voyez, chaque fois, ces stèles sont très expressives, ces sculptures sont très expressives. Et nous saisissons toute la divinité et en même temps l'humanité de Jésus. À la quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère Marie. Les visages sont merveilleux. Marie, image de la plénitude de grâce. Enveloppée dans l'amour rédempteur de Dieu, Marie est en union avec son Fils, Mater Dolorosa. Mère souffrante, quelle mère qui voit mourir son enfant n'a pas cette déchirante douleur. Dans son cœur se déverse toute la souffrance de la terre. Combien de larmes, en ces jours précisément, se déversent sur tant de champs de guerre. Marie tend la main vers celle de son Fils, main majestueuse, unie dans la prière ultime. Richesse encore des drapés qui donne vie à une scène déchirante, celle de la séparation ultime. Ô, vous qui passez par le chemin, considérez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. À la cinquième station, voilà Simon de Cyrène qui apparaît et qui aidera Jésus à porter la croix. À partir de cet instant, c'est le regard intérieur de Simon qui se révèle à lui. Et chacun de ses gestes, dans un élan de compassion, participe à la douleur du Christ. Du coup, le poids de la croix semble à nouveau allégé, comme par miracle. Dans la sixième station, Véronique. Reconnaît le visage de Dieu derrière celui du Christ défiguré par le supplice. Elle témoigne bonté, compassion, tendresse et voit au-delà de l'apparence toute la souffrance de celui qui porte la croix. Tout cela est bien reproduit par la sculptrice, notamment par le voile qu'elle a bien reproduit, un voile transparent, et c'est pourtant, dites-vous, c'est du marbre, c'est de la pierre. Eh bien, le voile apparaît transparent, il est plissé. On doit dire que c'est un travail fabuleux exécuté dans cette pierre dure, mais lumineuse. Véronique est couverte d'un grand châle, aux plis multiples, je reviens sur le travail des plis, aux plis multiples, et ses mains entourent chaleureusement les joues de Jésus. Tant de tendresse exprimée. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, nous a dit Matthieu 5:8. À la septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus est à terre, ses mains longues ressemble à des racines qui épousent la misère de l'humanité. Ses paupières se ferment et les plis de sa tunique semblent s'envoler vers les cieux. Il y a beaucoup de poésie dans chacune des stèles et en même temps que nous prions, nous sommes portés par la beauté de cette œuvre. À la huitième station, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, leur dit Jésus, pleurez sur vous et sur vos enfants. » Ainsi Jésus console ces trois visages éplorés. Ses mains sont placées dans le sens horizontal et le sens est vertical pour la croix. Une main est vers le haut, l'autre est vers le bas. Ses paupières sont à nouveau ouvertes. Nous pressentons déjà la transfiguration de Jésus, même si les femmes de Jérusalem sont inconsolables et restent engluées dans la matière. À la neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus supplie son Père, « S'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Que ta volonté soit faite. » Jésus est maintenant à terre, écrasé par la croix. Cette fois-ci, on sent que la croix est beaucoup plus lourde à porter. Ses mains sont suppliantes, son regard tourné vers le Père, de même que les plis qui s'élèvent vers le ciel. Un mouvement vers le ciel. À la 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ses mains sont surdimensionnées, son torse dévêtu. Mais encore, les plis marmoréens dans le marbre symbolisent le passage entre la grâce divine et l'homme. On sent cette métamorphose. Enfin, à la 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Il est couché, donc à l'horizontale. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ses muscles souffrent alors qu'on peut voir les veines vibrantes symbolisant l'espérance du salut et illuminant le passage vers Dieu, derrière ce rideau finement ciselé. Voyez que chaque fois, je reviens souvent sur les plis, mais chaque fois, les plis nous donnent la notion de la vie. Et donc, derrière ce rideau, il y a la vie qui attend. Tout est merveilleusement bien représenté. Vraiment, cet artiste devait être inspiré. À la 12e, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est le moment où Jésus meurt sur la croix, pieds et mains cloués, mais son dernier souffle s'étire par cette multitude de plis encore qui s'élèvent vers le ciel. On peut dire que c'est la vérité crucifiée qui illumine l'horizon. À la 13e, vous le savez tous, il est descendu de la croix. Il est remis à sa chère mère. Pietà, Pietà. On comprend l'affaissement du corps, son poids sur les genoux de Marie. Elle est vêtue d'une tunique plissée et son regard sublime s'adresse au ciel. Main offerte à l'invisible, lumière vivante et divine. À la 14e station, Jésus mis au tombeau. Ici, le plan horizontal restitue dans un mouvement de drapé la mise au tombeau du corps pesant du Christ. Son visage est enveloppé.